Premier sujet ce matin, mon cher Pierre-Yves, la vente de cannabis.
Oui, moi qui est un grand habitué, non, je blague, j'ai aucune idée, je suis jamais rentré dans la SQDC pour vrai, faudrait que j'aille faire un tour, mais ce qui m'a fasciné, Paul, avec les résultats publiés hier, c'est la dichotomie entre la SAQ et la SQDC, et ça illustre comment les deux drogues ne sont pas traitées de la même façon. La SQDC, on dit, on est encore dans un combat, évidemment, contre le marché illicite, tandis qu'à la SAQ, c'est très rare que j'entends un ami dire « je fais mon 40 onces de gin dans mon sous-sol ». Ça, je le comprends.
Il y a des gens qui font du vin, là, mais à part ça, là,
ouais,
c'est...
Puis tu sais, ceux qui font du vin, là, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais...
Non, pas de chicane
j'en
sur le
ai
vin
bu
maison.
Quelques fois, puis disons que ce n'est pas un Pontet Canet. mais, bon, on fait 23 millions de profits pour un trimestre, c'est le double de l'année d'avant. On a augmenté le nombre de succursales, ça va bien. On couvre nos frais et on dit que les surplus vont aller, évidemment, à faire des études sur le cannabis, à lutter contre des problèmes, etc. Puis là, je me suis dit, tiens donc, imagine si on prenait le discours de la SQDC économique puis qu'on l'appliquait à la SAQ. Imagine ça. La SAQ a fait plus d'un milliard de profits. Les profits seront redistribués aux offres d'organismes communautaires pour la prévention de la drogue, pour les centres de dépendance. Tu vois que c'est deux mondes.
Parce que l'alcool est légal depuis longtemps, à part la période de prohibition, alors que le cannabis, ben c'est relativement récent.
Et si j'arrive dans un party...
Non, mais tu comprends, regarde, tu veux pas me faire de publicité, tu veux pas que ça ait l'air attrayant. Non. Tu sais, c'est, tu rends ça austère en partant, là.
Mais la SAQ était comme ça au début. Moi, ouais. Paul, je suis trop jeune pour avoir connu les comptoirs, puis d'avoir connu la distribution aux consommateurs de la SAQ, c'est-à-dire on cachait les bouteilles. Mais ça existait à une autre époque aussi, après la prohibition, et donc... Ouais. Et donc, ce qui est drôle avec la SQDC, c'est qu'on commence par ça, mais un moment donné, on va générer du profit, puis un moment donné, on va faire de la pression sur les ventes, puis un moment donné, Paul, dans un futur pas si loin, on en entrera à la SQDC, il y aura la dégustation du spliff nouveau, la nouvelle gélule.
Regarde l'Auto-Québec, là, ils annoncent quoi de ce temps-là? Ils savent les gens sont confinés à la maison, okay. Les jeux en ligne sans arrêt. Puis la réponse de l'Auto-Québec, c'est de dire, ben regardez bien, on a des compétiteurs sur d'autres plateformes, sur d'autres sites web, puis les paris en temps réel, puis tout ça, on n'a pas le choix. Mais, tu sais, on s'entend que la notion de pas encourager le jeu compulsif, là, c'est assez absent des priorités de l'Auto-Québec, là.
Mais moi, j'ai un slogan pour l'Auto-Québec pour les aider à revendre des billets dans les dépanneurs.
C'est quoi?
Arrêtez d'être cheap, soyez gratteux.
En tout cas, je viens de partager ton idée de pub. Stratégie de vente ou comment manipuler le client?
Oui, je ne veux pas dire qu'il faut être manipulé, mais tu sais, on est manipulé dans la vie pour nos... Quand on est un consommateur, on est manipulé. Et donc, il y a des cours de vente qui disent aux gens comment manipuler son client de façon honnête. Et là, il y a une stratégie que j'ai vue, c'est, écoute, t'informer sur ton client. C'est drôle, pareil, parce que, exemple, aller sur Facebook, regarder ses intérêts. Puis pouvoir discuter, par exemple, si tu vas vendre une voiture à un client régulier ou si tu as une relation d'affaires à long terme, t'informer sur sa vie pour faire du small talk. D'ailleurs, Paul, c'est une stratégie qu'on propose aux dentistes, aux physios ou autres, de s'informer à son client. Je te donne un exemple. Mmh. « Salut, comment a été ta fin de semaine? » Ou, tu sais, au lieu de dire « Hey, il fait beau », ben tu lui parles de quelque chose qu'il aime et tu tombes par hasard sur un sujet qu'il aime subtilement et ça crée un sentiment d'attachement et de bonheur. Et ça, c'est la nouvelle façon de penser. Rends ton client heureux, il t'aimera pour longtemps. Il y a d'autres stratégies un peu moins difficiles, c'est-à-dire, il y en a une, c'est le faux dilemme. Tu sais, par exemple, est-ce que tu vas prendre ce véhicule-là ou ce véhicule-là? Parce que l'option non-véhicule n'est pas utilisée.
Non.
Y a aussi le niveau d'énergie. Là, j'ai vu un article qui disait « Accordez-vous au niveau d'énergie de votre client. » Si ton client arrive sobre et tranquille, sois sobre et tranquille. S'il arrive déprimé, repompe-le un peu. Et donc, tu es rendu là dans la relation client, dans le désir de le satisfaire. Et il y a aussi lui créer une insatisfaction. Le classique, tu arrives chez la coiffeuse, puis là, tu dis ah, « qu'est-ce que tu utilises pour tes cheveux? » Ben, du shampoing. « Ah, j'ai une cliente qui utilise tel produit et ça a fonctionné. »
C'est un bon vendeur.
C'est un bon vendeur. Ou, « Hey, si tu as ça, ça te prend ça. » Là, tu te sens loser. Et ça fonctionne très bien. Genre, « Hey, là, si tu as un spa, ça va te prendre un kit. »
Est-ce que tu es en train de nous parler de ton prochain livre, « Comment tout vendre?
» Non, mais il y a des choses qui fonctionnent bien. Comme mettre des produits. Hey, le meilleur que j'ai vu dans ma vie, Paul, t'arrives dans un magasin de meubles qui font une grosse publicité sur une télévision, qui est un téléviseur. Ça, c'était à une autre époque, c'était cathodique. Et là, ils te mettent le téléviseur à 369$. Et là, tout le monde se garoche pour l'acheter parce que c'est vraiment pas cher. C'est un modèle connu, tu sais. Et là, ils le mettent à côté d'un autre téléviseur. Et ils jouent avec les contrastes. Et là, ils te disent, « Hey, pour 50$ de plus, garde ce que tu aurais comme téléviseur. » Il est plus gros, puis regarde les couleurs. Et tu vois, toujours te mettre à côté de quelque chose qui est plus beau, ça aide. C'est comme un peu, tu arrives dans un centre de soins, puis on t'offre pour 100$, voici la liste des produits ou des soins que tu as. Mais pour 10$ de plus, on donne ça, 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 puis ça. Alors ça, c'est une stratégie de prix. On te fait penser pour dire, « Hey, voici vraiment un deal, donc t'es mieux de le prendre. » Mais dans le fond, c'est le premier forfait qui était trop cher. Donc, ce sont des stratégies pour jouer avec le client. Je te dis pas que c'est mauvais. Tu sais, manipuler le client pour son bien, c'est une bonne chose. Mais il y a des cours là-dessus. Comment closer un client, comment manipuler un client, comment qu'il peut devenir ton ami. Mais ce qu'il faut maintenant, c'est que ton client soit heureux. Et si tu aides son bonheur, il t'aimera longtemps.
C'est beau, de toute beauté. Est-ce que tu organises des séminaires à 5 000$ la fin de semaine dans un camp en bois rond pour donner tes trucs?
Mais non, il y a une nouvelle stratégie, Paul. Avant, le monde vendait un livre à 24$, mais il y a des gens qui sont bien plus forts que moi. Ce qu'ils font, c'est qu'ils font des webinaires.
Oui.
Et là, ils vendent ça 40$ par mois pendant 3 ans pour le même contenu qui aurait pu être écrit dans un livre pour 24$, tu comprends? Mais ça, ça fonctionne bien aussi. Parce que tu as une relation avec ton client.
Mesdames, messieurs, c'est notre super motivateur, le roi des ventes, Pierre-Yves. merci de nous avoir écouté.
Jean-Marc Chaput 3.
Merci. T'es heureux? T'es content d'être là?
Salut.
Parfait. Bonne journée. 7h22. L'autoroute des Laurentides.